Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Il est dessinateur, écrivain, photographe, commerçant. Il a 19 ans quand la photographie est inventée. Il sera espion même à un moment donné. Il se passionne pour l'art, les animaux, les ballons, l'ethnologie, le monde souterrain, le monde sous-marin. Il aime Victor Hugo, Champfleury, Baudelaire. Il est célèbre et il invente lui-même son fameux nom. Maintenant, il s'appelle Nadar. Mais sous ce pseudonyme qui est devenu une marque prestigieuse, Félix Tournachon, boulimique, tyrannique et envahissant, renacle à laisser apparaître les autres membres de la tribu Nadar, Adrien et Paul. Et aujourd'hui, une exposition remet en évidence le génie des trois Nadar à la Bibliothèque nationale de France, ceci du 16 octobre de cette année au 3 février de l'année prochaine. Écoutons ce que dit Nadar de lui-même.
Le très cher vieux copain Théodore n'a-t-il pas écrit d'ailleurs dans sa fulgurante et trop affectueuse préface de mon hôtellerie des Coxigrues que ce Nadar était évidemment né pour se mêler de tout ce qui ne le regardait point ? Mon existence, effectivement, se sera tiraillée en si fantaisiste variété d'applications que devant elle méli-mélo, déconcerté par la multiplicité de mes candidatures ou incarnations, mon bon ami Édouard Rode s'était, avant de me connaître en personne, imaginé rencontrer une dynastie, une tribu bariolée de caricaturistes, tous foisonnants, chacun à l'envie. À cet art de touche-à-tout, déjà mal rémissible, ajoutait grief pire encore. Stendhal a écrit que de tous les peuples, le français est le plus intrépide à supporter l'ennui. Et tout bon français que je me trouve, je dois confesser chez moi une incoercible, une implacable horreur de l'ennui. Félix Nadar, 1911.
Et au-delà de Félix Nadar, pour parler des Nadar, une légende photographique, le titre de l'exposition qui a lieu à la Bibliothèque nationale, j'ai le plaisir de recevoir Sylvie Aubenas. Bonjour Sylvie, comment allez-vous ?
Je vais très bien, je vous remercie.
Vous dirigez le département des estampes de la photographie de la Bibliothèque nationale. Vous êtes l'une des commissaires de cette grande exposition qui a lieu dans quelques jours. Vous êtes une spécialiste du 19e siècle, surtout pour la photographie.
Absolument.
Voilà, et nous avons avec nous un autre des auteurs de ce catalogue, Paul-Louis Roubert. Bonjour Paul-Louis.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien.
Vous êtes le président de la Société française de photographie, à laquelle appartenait d'ailleurs Félix Nadar.
Quelques semaines, quelques mois, mais il a été membre de la SFP, effectivement.
Il s'est lassé ?
Non, il a adhéré parce que ça servait son propos et quand ça ne l'a plus servi, il est parti.
Alors, la Société française de photographie enregistre les progrès techniques, collectionne les photographies, publie des travaux sur l'analyse, aussi bien technique qu'esthétique d'ailleurs, de l'histoire de la photographie.
C'est une académie de la photographie créée en 1854, en plein milieu du 19e siècle, au moment où la photographie commence à se poser les grands problèmes de la photographie entre esthétique, industrie, et elle va faire un peu le office effectivement d'académie. Elle va enregistrer des travaux, créer une bibliothèque, créer une collection de dons de photographes et devenir une institution incontournable de la photographie jusqu'à la Première Guerre mondiale.
Et donc la photographie apparaît quand Nadar père à 19 ans. Le brevet est acheté par la France, n'est-ce pas?
Oui.
Enfin, on peut dire ça comme ça ou pas?
Oui, par l'État français qui va faire tomber la photographie dans le domaine public,
donc,
pour le monde entier.
Avec le souhait d'en faire une expression populaire, en tout cas.
Exactement.
De rendre possible, c'est un point de vue politique, au fond.
Oui, c'est une démocratisation de la possibilité d'une image exacte avec tout le potentiel d'utopie qu'elle contient à ce moment-là, parce qu'elle est à peu près incapable en 1839, au moment où on annonce son invention, de satisfaire absolument les besoins qu'on voit en elle, c'est-à-dire la diffusion, la reproductibilité, la démocratisation de l'image. Il faudra quelques années avant qu'elle ne devienne véritablement, à la fin du 19e siècle, une image qui commence véritablement à se démocratiser.
Alors Sylvie, apparaissent donc à la suite de ce décret, si je puis dire, de cette décision, les primitives de la photographie, c'est le titre d'ailleurs d'un livre que vous avez co-dirigé avec Paul-Louis Roubert il y a quelques années. Et parmi les primitives de la photographie, il y a l'étrange personnalité, quand même, de Nadar et puis de sa tribu.
Félix Nadar a écrit un texte célèbre que Paul-Louis a beaucoup commenté sur les primitives de la photographie, mais je ne suis pas certaine qu'il en fasse exactement partie. C'est-à-dire qu'il y a une première génération de photographes, juste après l'invention, ceux qui ont utilisé le daguerréotype de Daguerre, et puis les utilisateurs du négatif sur papier, ce sur quoi nous avions travaillé avec Paul-Louis en 2010. Et Nadar, lui et son frère, apparaissent dans le milieu de la photographie vers 1853-54, au moment où on invente quelque chose qui va encore révolutionner la photographie, c'est le négatif sur verre, parce qu'il apporte la précision et la rapidité de prise de vue, et donc un potentiel énorme pour le portrait commercial.
Donc ce n'est que lorsqu'il a au fond 40 ans que Nadar se met à la photographie d'une façon professionnelle, si je puis dire.
Oui, quand il a 34 ans. Nadar est un homme qui a eu de très nombreuses vies, dont la photographie.
Donc c'est ce qu'il disait tout à l'heure, c'est une activité incessante, il n'arrête pas d'être quelqu'un d'autre, de s'intéresser à d'autres choses. Il est effectivement, on peut dire, boulimique, sans lui porter préjudice. Mais est-ce que vous pouvez nous dire d'où il sort, Nadar? Parce que on le voit caricaturiste, on le voit journaliste, on le voit... Il a plusieurs vies avant d'être le grand photographe Nadar. Et puis à ce moment-là, il s'appelle Félix Tournachon.
C'est assez difficile de résumer sa vie en quelques mots, mais disons que c'est le fils d'un imprimeur lyonnais qui s'est installé à Paris au début du 19e siècle. Il admirait énormément son père, qui est mort ruiné en 1837, en le laissant orphelin à 17 ans, avec sa mère et son petit frère qui se sont trouvés à sa charge. Donc il a été obligé de surnager dans le Paris des années 1830, et son moyen de subsistance, alors qu'il admirait éperdument la littérature, a été de travailler d'abord comme écrivain, journaliste dans tous les petits journaux qui fleurissaient à l'époque. Après, il est devenu caricaturiste au début des années 1840. Il s'est aussi inventé un passé d'étudiant en médecine.
Mais il ne l'a pas été, parce qu'il a rêvé d'être scientifique, mais il ne l'a pas été, n'est-ce pas?
C'est difficile avec lui de démêler le vrai du faux.
Alors c'est un personnage qui aime le légendaire, qui aime l'histoire de lui-même. Il parle beaucoup de lui, et parfois...
Avec beaucoup de talent.
Non mais c'est un écrivain extraordinaire. Quand on lit l'extraordinaire « Quand j'étais photographe », c'est sensationnel à lire. C'est juste... Moi je me suis dit en le lisant, je vais être absolument au fait pour l'émission. Je saurai tout sur l'histoire de la photographie à cette époque-là, et tout sur Nadar photographe. En fait, il parle de mille autres choses, n'est-ce pas?
De tout sauf de photographie, ou presque. Donc « Quand j'étais photographe ». D'ailleurs, enfin... Y a-t-il vraiment des textes de Nadar qui parlent de photographie, mis à part peut-être le texte qui s'appelle « Les primitifs de la photographie ».
Qui est un assez long texte.
Qui est un très long texte, puisqu'il avait fait l'objet de 5 parutions dans la revue de son fils Paris Photographe au début des années 1890. Tout le reste, c'est effectivement assez compliqué. Parfois, on se perd souvent dans des petites anecdotes. C'est une sorte de description d'un folklore un peu autour de la photographie, surtout autour des ateliers de photographes. C'est-à-dire qu'on a parfois l'impression d'entendre, effectivement, à la fin du repas, le grand-oncle raconter les bonnes histoires qu'il a. Et donc, c'est ce qui se passe autour de la photographie. Mais je pense que, fondamentalement, la photographie en tant que telle ne l'intéresse pas énormément.
tout l'intéresse. C'est ça le problème, voilà, c'est que tout l'intéresse, il n'y a pas de limite à sa curiosité. Mais alors, avant de plonger dans le nadar photographe et les nadars photographes, peut-être disons un mot de sa vie de caricaturiste, parce que ça montre quelque chose qui aura beaucoup de succès dans son œuvre ensuite, qui est son intérêt pour le visage, ce qui est très important, je crois. Et il tente quelque chose, une entreprise folle. Comment est-ce qu'on appelle ça, cette sorte, ces séquences de caricatures énormes?
Je pense que vous faites allusion au Panthéon Nadar, dont il a l'idée en 1852. En fait, son guide et son mentor dans le domaine de la caricature, c'est Charles Philippon, qui est un patron de presse génial des années 1840, début des années 1850, et qui prend un peu le jeune Nadar, assez effervescent et ingérable. Il le prend en main, il l'oblige à travailler. La correspondance à ce sujet n'est qu'une suite d'engueulades sur « tu m'as pas rendu le dessin, j'envoie quelqu'un le chercher ». Enfin, c'est assez amusant. Et je pense que c'est Philippon qui lui donne l'idée, dans ce qu'il lui commande, de se lancer dans cette entreprise.
Cette entreprise, c'est quoi?
C'est gigantesque. En fait, Nadar a l'idée en 1852 de publier quatre immenses lithographies représentant chacune 300 personnages à peu près. L'une consacrée aux musiciens, l'autre aux écrivains, l'autre aux peintres et sculpteurs, le dernier aux acteurs. Et donc de faire 1200 portraits en caricature. Donc il commence.
C'est délirant.
Délirant. Mais la marque de Nadar est souvent, effectivement, la démesure.
Et il va arriver à faire 1200 dessins. Peut-être pas les trois séries dont il pense, mais il va y avoir beaucoup de dessins en tout cas, non?
Oui, il fait beaucoup de dessins. Il commence, la première lithographie est consacrée aux écrivains. Et il commence à faire les 300 portraits. En 1852-53, à ce moment-là, la photographie d'atelier, de portrait se développe à Paris. Il a un petit frère qui travaille avec lui, qui s'appelle Adrien. Il lui fait apprendre la photographie par un grand photographe qui s'appelle Gustave Legret. Il demande à son frère de faire aussi quelques portraits photographiques pour aider à son entreprise, qui est un peu désordonnée, c'est-à-dire que il demande à certains écrivains d'envoyer leurs portraits, d'envoyer leurs propres caricatures, il envoie
d'envoyer
leur biographie. Ça part un peu dans tous les sens. La parution est reportée pendant un an, et c'est à ce moment-là qu'il se met à utiliser la photographie. Finalement, une seule lithographie paraît. Au printemps 1854, c'est celle des écrivains. Il renonce aux biographies qui devaient accompagner l'image et il renonce aux trois autres grandes lithographies.
Il voulait faire fortune avec ça. Il s'est juste épuisé, non?
Les ambitions de Nadar sont assez difficiles, enfin, pour lui, pour le dire, à comprendre. On pense qu'en effet, enfin, je pense qu'il veut faire fortune, il veut que tout le monde l'aime, il veut être célèbre, il veut être au centre de l'attention, mais à la fin, je ne pense pas que ce soit l'argent qui l'intéresse le plus.
Paul-Louis, il veut effectivement être célèbre, le nom de Nadar après cette première entreprise est célèbre. Par contre, nos auditeurs ne savent pas comment Félix Tournachon est devenu Nadar. C'est quoi le rapport entre ces deux noms?
Il y a plusieurs légendes là aussi, mais enfin, c'était un patois lyonnais où, quand il était étudiant, on rajoutait sans arrêt à la fin du nom.
Tournadar. Oui, c'est des amusements d'étudiants et de salles de rédaction où, je ne sais pas, enfin, on pourrait le comparer à différents argots ou verlans. Donc, à un moment, ils parlaient tous en dar.
Oui, voilà, c'est ça.
Donc on l'appelait Tournachon, Tournadar.
Tournadar, Tournachon d'art, Nadarchon. Il y a eu toutes les versions jusqu'à ce que ça se stabilise à un moment sur Nadar, qui est un nom qui a cristallisé sa personnalité.
Et une signature.
Et une signature.
Une graphie très particulière et qui se reconnaît, effectivement.
Alors, il y a une chose qui se passe, au fond, suite à ce Panthéon, c'est qu'il connaît un petit peu par son père éditeur et un petit peu par son milieu la terre entière. C'est-à-dire que tous les grands artistes, toutes les grandes figures le connaissent. Son nom devient très connu et il va devenir le photographe des plus grandes célébrités de l'époque.
C'est-à-dire que dans les ambitions décrites autour de ce que souhaite Nadar, il y a aussi faire partie de ce monde de la bohème littéraire, artistique parisienne. Et c'est les caricatures ont aussi cette fonction, c'est-à-dire de s'inclure lui-même. Et il a cette propension à vouloir s'inscrire lui-même dans l'histoire. Et donc effectivement, ça va être la relation compliquée qu'il va y avoir entre Félix et son frère Adrien. Ça sera la collaboration qu'ils vont avoir autour d'un studio photographique qui sera le premier, dans lequel il va pouvoir convoquer tous les personnages, ses amitiés littéraires, artistiques qui vont venir poser par amitié aussi pour
ça
lui.
Ça va de Gustave Doré à Jules Verne, à Baudelaire,
des gens qui, a priori, n'aimaient pas du tout la photographie et qui, quand même, venaient par curiosité regarder comment ça pouvait fonctionner.
Quand vous dites cela, il faut que vous nous racontiez, Sylvie, si vous voulez bien, il y a quand même ce commentaire incroyable au début du livre de Nadar sur la peur de la photographie de Balzac et Nerval.
Je ne sais pas dans quelle mesure c'est exact, parce que...
Mais on s'en fout.
Oui, on s'en fout, c'est vrai. Et Nadar, le premier, se fichait complètement que l'histoire soit vraie ou pas, du moment qu'elle était bonne, et qu'il pouvait la raconter avec brio. C'est-à-dire qu'il avait une admiration éperdue pour Balzac, dont il n'a pas pu faire le portrait puisqu'il est mort en 1851 avant que Nadar se lance dans la photographie. Mais il a réussi à obtenir une reproduction du seul portrait photographique de Balzac qui avait été fait par les frères Bisson, un autre atelier de photographie. Et en fait, il raconte autour de ce portrait qu'il s'est approprié, qu'il a refait en caricature, qu'il a agrandi, qu'il a fait peindre par son frère, qui décorait en grand format tous ses ateliers, parce qu'il était entouré de grands portraits de Dumas, de Balzac, de Hugo et de quelques actrices plus décoratives que ces messieurs.
Et Sarah Bernhardt. Liane de Pougy,
voilà,
un peu plus tard.
Voilà, exactement. Et donc, il lui faut une anecdote autour de chacun de ces grands hommes. Et l'anecdote autour de Balzac, qu'il est évidemment très difficile de vérifier, c'est que Balzac pensait que quand on vous photographiait, on vous prenait une partie de votre, finalement, de votre enveloppe charnelle.
De votre âme.
Âme qui se détachait de vous pour s'appliquer sur le négatif.
Votre âme était comme un millefeuille, en fait. Et chaque fois qu'on prenait une photo, il y avait une feuille qui partait, c'est quelque chose comme ça.
C'est un peu ça, oui.
C'est ça, oui.
Donc
oui.
On peut vérifier que c'est faux, sinon il y a un certain nombre de nos contemporains qui n'existeraient plus beaucoup.
Mais il embarque dans cette histoire Nerval aussi, qui était avec... Nerval a un peu écrit sur la photographie. Il y avait c'est aussi pour caractériser un peu cette méconnaissance du processus photographique, cette crainte de la photographie. On savait, le photographe jusqu'à la fin du 19e siècle a toujours l'air un peu d'un magicien. Il se met sous un drap noir, on ne sait pas très bien ce qui se passe dans le laboratoire. On dit que c'est dangereux, il y a des gens qui y meurent même. Donc il y a cette peur un peu anthropologique de dire mais finalement qu'est-ce qui se passe quand on se fait prendre en photographie. Et Balzac, d'une certaine manière, oui, caractérise cette crainte un peu. Et puis aussi, ça plaît à Nadar de raconter cette histoire parce que ça donne à la photographie ce côté magique qu'il aimait beaucoup finalement. C'est-à-dire ce côté impalpable, c'est-à-dire de tout rationaliser par la science, etc. Finalement, c'est pas trop ce qui l'intéresse par la photographie.
Vous parlez du portrait de Nerval, parce qu'il a fait le portrait de Nerval.
Oui.
Donc, très mélancolique.
C'est Adrien qui l'a fait. Oui, on l'attribue à Félix, mais c'est Adrien. Oui.
Parce que très souvent, c'est assez compliqué. Parce que, par exemple, je vois dans votre catalogue de bureau le mime.
Oui,
et c'est signé Adrien mais dans tous les catalogues, je lis Félix.
C'est un peu le but de notre entreprise.
Vous êtes sûr qu'Adrien n'est pas l'assistant, simplement ?
Écoutez, connaissant Félix Nadar, je pense que si son frère n'avait été que l'assistant, il ne l'aurait pas laissé signer les photographies que lui aurait prises.
Bon, parce qu'il faut raconter une histoire triste quand même, c'est le procès entre les deux frères.
C'est une histoire tragique.
Enfin, bah oui, c'est affreux.
Une histoire biblique, shakespearienne, je ne sais pas moi, de lutte entre deux frères.
Abel et Caïn, mais il n'y a pas eu de mort.
Ah non, mais ils en avaient conscience, oui.
Racontez, l'un ou l'autre.
Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que l'idée de point de départ de cette exposition est partie lorsque la co-commissaire de l'exposition avec moi, Anne Lacoste, qui dirige l'Institut pour la photographie dans les Hauts-de-France, m'a dit que ça serait une très bonne idée de refaire une exposition sur Nadar. La précédente grande exposition était celle du musée d'Orsay en 1994, qui était centré sur Félix Nadar et même sur quelques années de la création de Félix Nadar, puisque l'exposition s'appelait Félix Nadar, les années créatrices 1854-1860. Donc c'était un focus.
Ce qui est fascinant, c'est que les années créatrices, c'est 6 ans. C'est incroyablement court ce qu'on appelle les années créatrices de Nadar.
C'était le point de vue de l'époque.
C'est-à-dire ça se défend ou pas?
Oui, ça se défend parce que c'est la période où il a produit ce qu'on considérait alors comme ses portraits les plus beaux et les plus célèbres. Nous, ce qu'on s'est dit plus de 20 ans après, et avec tous les progrès que l'histoire de la photographie a fait entre-temps, la meilleure connaissance qu'on a des fonds, et puis la moindre nécessité de défendre la photographie à travers une partie très représentative de l'œuvre d'un seul photographe célèbre, c'est qu'il était finalement, dans un second temps, non pas pour contrer ce qui avait été fait précédemment, mais plutôt pour l'enrichir et le développer, d'envisager toute la famille Nadar, puisque en fait le frère de Félix Nadar, on le sait moins, a été photographe aussi, un excellent photographe qui a même commencé avant lui.
Vous parlez d'Adrien ?
Adrien.
Voilà.
Et son fils, Paul, qui est quasiment né dans l'atelier, a repris l'atelier en 1886, alors que son père n'est mort qu'en 1910. Et Paul a eu une œuvre de photographe très importante, et surtout, ça a été un chef d'entreprise très, très remarquable, qui a développé la photographie, la vente de matériel photographique. Il a été le représentant de Kodak, de la firme Kodak en France.
Quand vous dites représentant de la firme Kodak en France, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ce sont les premiers à s'être intéressés à l'instantané.
Absolument.
C'est quand même ça qui est inouï.
Oui, voilà. Félix aussi. Alors, je pense que c'était beaucoup plus intéressant de présenter les œuvres de ces trois photographes, un peu aussi l'histoire de la famille, puisqu'en fait l'exposition commence, toute la première partie, c'est uniquement les portraits des Nadar par les Nadar.
Oui.
Du début à la fin de leur vie.
Oui, on voit Paul tout petit avec ses cheveux raides apparaître dans la famille. On voit
même au sein de sa nourrice. Je pense que personne n'a été photographié plus tôt et plus tard que Paul Nadar.
Oui, c'est normal. Vous avez légèrement escamoté ce grand conflit entre Adrien et Félix, parce que vous n'aimez pas les conflits.
Comment le savez-vous?
Et Paul-Louis, vous nous dites que ce conflit a eu lieu, ça a été en fait un procès sur l'utilisation du nom.
Non seulement ça va être retentissant pour les deux frères, mais l'affaire va se reproduire avec le fils plus tard. C'est-à-dire tout l'enjeu, c'est ce nom, donc inventé par Félix, qui va être associé d'abord à la caricature, au journaliste, puis très vite à la photographie, qui va revenir au centre d'une querelle entre les deux frères, savoir qui a le droit de s'approprier le nom Nadar. Donc Félix va garder Nadar et Adrien va s'approprier le nom de Nadar jeune. Et tout le procès aura lieu autour de la possible préemption par le jeune frère de ce nom qui était la propriété et la création de Nadar et qu'il associe dès ce moment-là à son travail de photographe, mais même au-delà de son travail de photographe, à son personnage d'auteur, depuis la caricature jusqu'à la photographie. Et donc ce nom, qui, comme vous le disiez au départ, se retrouve comme étant une marque, très vite, une marque de qualité en termes de photographie, petit à petit, au fur et à mesure des années, une marque de longévité aussi, de mémoire photographique, va être au centre d'un procès entre les deux frères. C'est là où Nadar va, à la fin des années 50, va commencer à théoriser la théorie de la photographie. Ce qui ne s'apprend pas en photographie, c'est-à-dire le talent, ne s'apprend pas en photographie. Il y a des petites choses techniques, mais il dit que le tout s'apprend en une demi-heure. Et le reste, le talent, ça ne s'apprend pas. Il faut avoir le sentiment de la lumière, le sentiment de la pose, et avoir une relation très particulière avec ses modèles. Et c'est là-dessus, c'est pour ça qu'il fait venir en priorité les gens qu'il connaît très bien. C'est cette connaissance du modèle qui va créer une image particulière.
Paul-Louis, ça me permet de vous poser une question. Tout à l'heure, vous parliez du portrait de Nerval, qui est un portrait très mélancolique. On sent le Nerval suicidaire et malade.
Il s'est suicidé 15 jours après le portrait. Après.
Ça confirme.
Mélancolique.
Mais il est très beau. Il y a beaucoup de portraits très beaux, justement. Manet, par exemple. Mais est-ce que par rapport à la production de portraits de l'époque, est-ce qu'il y a une qualité qui vous fait dire que Nadar est probablement l'un des très grands maîtres de la photographie des années 60, 1860 ?
1850.
Ok, 1850.
Alors, de fait, le portrait de Nerval, c'est Adrien, maintenant on le sait. Il est sûr que autour de ce studio, en fait, on va dire entre Adrien, parce que la qualité des photographies de Adrien est indéniable. Elle est même parfois supérieure à celle de Félix. Donc, mais il se passe quelque chose, effectivement, dans ce studio, qui se passe autour, effectivement, de l'intimité qu'ils produisent avec les modèles. C'est ce qui va faire la différence, justement, avec la photographie dite industrielle qui va commencer à avoir lieu à partir des
celle des cartes de visite, celle des, par exemple.
À partir des années 60. Très vite, c'est ce qui va faire déjà une première, un premier échec du grand studio du boulevard des Capucines de Nadar. C'est-à-dire la concurrence qu'il va avoir des portraits-cartes. Lui, il fait, en gros, pour le dire rapidement, lorsqu'il vend un portrait, il le vend 100 francs. Disdéry à côté, qui produit des portraits-cartes, donc des petits portraits qu'on peut avoir sur soi et échanger comme carte de visite. Une photo chez Disdéry vaut 10 francs. Alors, 10 photos, ça vaut 100 francs. Donc, en fait, le rapport est de 1 à 10. Donc, forcément, la concurrence est sévère.
Oui. Mais Nadar, c'est 10 fois mieux.
Nadar, c'est 10 fois mieux.
Au moins. Alors, on va y revenir. Oui, pardon, Sylvie, je ne veux pas vous interrompre. Allez-y.
Je pense que ce qu'on peut dire pour vos auditeurs qui n'ont peut-être pas en tête ce qu'est un portrait photographique dans les années 1850-60, c'est que la plupart des studios installés sur les grands boulevards étaient moqués par les gens de goût parce qu'ils installaient autour de leur modèle un décor qui paraissait un peu pompeux et ridicule avec des colonnes tronquées,
des rideaux,
des drapés, ouais. Des toiles peintes, alors que Nadar a eu l'intelligence de comprendre qu'il fallait faire très sobre, qu'il fallait des fonds neutres, jouer uniquement sur la lumière et même masquer un peu le costume contemporain quand il était trop envahissant. C'est-à-dire, si une dame arrivait avec une robe à carreaux et beaucoup de petites franges et de dentelles, il lui mettait un grand drapé en velours noir pour que le portrait soit beaucoup plus sobre, beaucoup plus fort. Et c'est vrai qu'il a... entre Nadar et Irving Penn, si vous voulez prendre...
C'est drôle, je pensais à Irving Penn quand vous en parliez.
Une comparaison flatteuse, mais oui. Il n'y a pas tant de différence que ça.
Oui, parce qu'Irving Penn aussi, c'est bâche très simple. C'est très intéressant. Écoutons peut-être ce que dit en 1859 Henri Tournier. Il parle de Nadar.
Pour qui connaît Monsieur Nadar, il y a quelque chose dans ses allures, dans sa tête, qui rappelle en l'air celle de Rembrandt. Dans sa verve et sa fougue, toutes les hardiesses qui décèlent une profonde horreur pour la ligne et la sécheresse des tons. Tout ce qui porte un nom dans les lettres, les arts, la finance ou le barreau, est venu poser devant son objectif et enrichir la collection des figures contemporaines. Le mérite des portraits de M. Nadar ne consiste pas seulement dans l'habileté de la pose qui est tout artistique. Il y a là une disposition savante et raisonnée de la lumière, qui atténue ou augmente le jour selon le caractère de la tête et l'instinct de l'opérateur. Nous retrouvons de plus dans le tirage des épreuves une recherche délicate de l'harmonie et des tons légèrement estompés, qui adoucissent de leur pénombre les arêtes des contours. Les voilà telles qu'elles sont toutes, ces célébrités du jour. L'Olympien Gautier dans toute sa couleur, le front ceint d'un Madras éclatant. La lumière a saisi au vol le sourire délicat et sensuel de Jeannin, la fine bonhomie de Dumas, le dédain de Guizot et la rêverie de Pelletan. Tous ont laissé sur la plaque leur originalité et comme une partie de leur âme, recueillie par un rayon de soleil et immortalisée par lui. Nadar fait poser ses modèles dans un jardin où l'on ne respire pas que les émanations de l'éther, et de plus, il ne fait poser que des gens d'esprit. Ils ne seraient pas eux si devant l'objectif ils perdaient leur mine intelligente. Nadar ne serait point lui s'il ne savait la leur conserver. Henri Tournier, 1859.
Vous Vous êtes sur France Culture, vous écoutez l'art et la matière, aujourd'hui consacré au Nadar, avec un S, c'est-à-dire la dynastie Nadar. C'est une exposition qui a lieu à la Bibliothèque nationale, une légende photographique. Et nous venons l'entendre, puisque nous en parlions justement avec Paul-Louis Roubert et Sylvie Obnas. Vous venez d'entendre la façon dont, à l'époque, on se rend compte que la lumière tourne de façon très particulière autour des visages, qu'ils parviennent à une expression esthétique et pas simplement à une capture. C'est quelque chose comme ça?
C'est ça, mais comme le disait Sylvie, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut défendre une photographie de bonne qualité par rapport à une photographie plus industrielle, faite à la chaîne, et défendre une particularité et une originalité de la photographie pour qu'elle puisse se distinguer à la fois des beaux-arts, mais qu'elle puisse aussi y rentrer. Et donc ça, c'est tout l'enjeu, c'est à défendre une photographie de bonne qualité, ce que défend la SFP au même moment, la Société Française de Photographie, qui essaye de mettre en place des expositions, d'éduquer le goût du public, mais aussi le goût de la critique. C'est-à-dire qu'il faut que dans les journaux puissent paraître des articles, et ce qui ne fonctionne pas forcément toujours, puisque le grand ami de Nadar, Baudelaire, publie en 1859 ce texte qui s'appelle « Le public moderne et la photographie », qui est une charge très forte contre la photographie, hein, une pierre mise dans le jardin de Nadar. Est-ce que la photographie est capable d'une expression esthétique autonome, et est-ce qu'on laissera un jour aux photographes la possibilité de réclamer ce sens de la lumière, ce sens de la photographie, de la posture des corps et effectivement de la mise en scène du portrait de bonne qualité. Donc c'est un peu tout l'enjeu de cet objet-là. Ouais.
Oui, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point la photographie est mise en balance, par exemple, avec les graveurs à l'époque pour la reproduction, avec... Non, n'est-ce pas,
oui,
Sylvie Obnas ?
Elle est mise en balance avec les graveurs pour la reproduction.
Avec
elle
la
est,
peinture. Avec...
Elle est moquée par les peintres. On lui concède un rôle, comme disait Baudelaire, d'humble servante, c'est-à-dire que si elle sert de garde-notes aux savants, aux peintres, aux dessinateurs, on l'accepte, mais qu'elle essaie de se hausser au niveau des arts majeurs, et on lui tape sur les doigts immédiatement. Et on s'est beaucoup moqué dans les années 1850 de ces photographies prétentieuses et ridicules. Je pense que Nadar est le seul avec... les premiers photographes artistes que nous avons étudiés avec Paul-Louis, qui avaient, mais plutôt à travers des paysages...
Comme Le Gray, par exemple.
Comme Gustave Le Gray, à travers des paysages, de faire une œuvre photographique avec une ambition artistique assumée. Nadar est le premier qui fait, avec Le Gray, mais qui avait un moins grand sens de la publicité que Nadar, des portraits que les gens de goût, enfin les écrivains, les artistes, pouvaient accepter. C'est-à-dire que c'était presque honteux d'aller se faire photographier avant Nadar. Quand Nadar arrive avec son atelier très sympathique, avec son jardin 113 rue Saint-Lazare, dite rue Saint-Nadar, il est...
On l'appelait comme ça,
oui, les cochers de fiacre lui disaient « Ah, vous allez rue Saint-Nadar ». Eh bien, ça devenait possible et avouable de se faire photographier parce qu'on savait qu'on aurait un portrait qui serait à la fois ressemblant et artistique et pas quelque chose qui mettrait juste en avant vos défauts, vos grimaces.
Alors, vous parlez de cette critique de la photographie qui est dans l'air à ce moment-là, dont le plus célèbre, vous l'avez cité évidemment, Paul-Louis, c'est Baudelaire. On va écouter un des extraits du texte que Baudelaire fait, mais paradoxalement, et on en reparlera, Baudelaire, c'est parmi les chefs-d'œuvre de la photographie par Nadar, n'est-ce
Absolument.
Pas
Absolument. Dans l'exposition, vous avez trois sublimes portraits de Baudelaire par Nadar. Et quand Baudelaire demande à sa mère qu'il adorait qu'elle vienne à Paris pour... il lui dit qu'il faut qu'elle aille chez un bon photographe parce qu'il voudrait avoir sa photo et qu'il n'y a qu'à Paris qu'on peut avoir cette douceur, ce moelleux qui est à la fois ressemblant, artistique, mais pas trop réaliste. Donc il veut la photo de sa mère, mais publiquement, mais enfin on sait que Baudelaire est un homme de parti pris et qu'il aime la provocation et le paradoxe.
Il critiquait la photographie, mais il avait des photographies de lui plein ses poches. Hein. On connaît 12 ou 13 portraits de Baudelaire photographiques.
On va y revenir. Écoutons, donc on est au salon 1859, la charge de Baudelaire contre la photographie.
L'industrie qui nous donnerait un résultat identique à la nature serait l'art absolu. Un dieu vengeur a exaucé les vœux de cette multitude. daguerre fut son messie. Et alors elle se dit, puisque la photographie nous donne toutes les garanties désirables d'exactitude, ils croient cela les insensés, l'art, c'est la photographie. À partir de ce moment, la société immonde se rua comme un seul narcisse pour contempler sa triviale image sur le métal. Une folie, un fanatisme extraordinaire s'empara de tous ces nouveaux adorateurs du soleil. Comme l'industrie photographique était le refuge de tous les peintres manqués, trop mal doués ou trop paresseux pour achever leurs études, cet universel engouement portait non seulement le caractère de l'aveuglement et de l'imbécilité, mais avait aussi la couleur d'une vengeance. La poésie et le progrès sont deux ambitieux qui se haïssent d'une haine instinctive. Et quand ils se rencontrent dans le même chemin, il faut que l'un des deux serve l'autre. S'il est permis à la photographie de suppléer l'art dans quelques-unes de ses fonctions, elle l'aura bientôt supplanté ou corrompu tout à fait, grâce à l'alliance naturelle qu'elle trouvera dans la sottise de la multitude. Il faut donc qu'elle rentre dans son véritable devoir, qui est d'être la servante des sciences et des arts, mais la très humble servante, comme l'imprimerie et la sténographie, qui n'ont ni créé ni supplanté la littérature. Qu'elle enrichisse rapidement l'album du voyageur et rende à ses yeux la précision qui manquait à sa mémoire, qu'elle orne la bibliothèque du naturaliste, exagère les animaux microscopiques, fortifie même de quelques renseignements les hypothèses de l'astronome, qu'elle soit enfin le secrétaire et le garde-notes de quiconque a besoin dans sa profession d'une absolue exactitude matérielle, jusque-là, rien de mieux. Qu'elle sauve de l'oubli les ruines pendantes, les livres, les estampes et les manuscrits que le temps dévore, les choses précieuses dont la forme va disparaître et qui demandent une place dans les archives de notre mémoire, elle sera remerciée et applaudie. Mais s'il lui est permis d'empiéter sur le domaine de l'impalpable et de l'imaginaire, sur tout ce qui ne vaut que parce que l'homme y ajoute de son âme, alors, malheur à nous. Charles Baudelaire, 1859.
Vous êtes sur France Culture et nous écoutions le texte grinçant de Baudelaire contre la photographie. C'est l'émission L'art et la matière et nous parlons des nadars. Nous parlons des nadars, Sylvie Aubenas, vous qui êtes commissaire de cette exposition. On a parlé un peu plus de Félix, on va en reparler encore tout à l'heure parce que j'ai du mal à ne pas aller plus loin dans Baudelaire. Mais néanmoins, Adrien et Félix Nadar se réconcilient après le procès ?
Oui, ils se sont réconciliés parce que, en fait, Adrien ne s'intéressait pas beaucoup à être fâché avec son frère. Ça le fatiguait plus qu'autre chose. Et il a été très content de se réconcilier avec lui.
Donc ça va mieux.
Ça va très bien.
Et il y a quelque chose qui se passe, et je crois qu'Adrien est dans le coup, si j'ose dire. C'est un intérêt, parce qu'on ne se rend pas compte de ça, pour l'électricité. Comme si c'était nouveau. Ça l'est, peut-être.
Oui. Alors, c'est-à-dire que les nadars, Adrien, Félix et Paul, se sont toujours passionnés pour le progrès des sciences. Et de temps en temps, les applications des progrès des sciences, qui sont vraiment, évidemment, au XIXe siècle, une des grands axes du siècle, et l'électricité a été utilisée par eux pour faire des portraits à la lumière artificielle. C'est-à-dire que Félix a rencontré un ingénieur qui s'appelait Serin, et qui en fait avait mis au point une série de piles électriques qui permettaient un peu de domestiquer la lumière pour faire des éclairages nocturnes.
Alors je suppose qu'il fallait trouver des filtres, il fallait trouver...
Voilà.
C'était pas très facile l'impression, enfin pas l'impression même, l'impression.
La prise de vue.
La prise de vue, oui, hein, oui. Paul-Louis Roubert.
Non, oui, c'est effectivement très très compliqué. Et puis ça chauffe énormément. Enfin, ça engage tout un.
Ça fait peur. En plus.
Ça fait peur, mais ça permet quand même de réaliser des images. Alors les portraits, il y en a certains qui sont assez beaux, mais surtout ça permet de sortir de l'atelier et d'aller dans des endroits et qui n'ont jamais été documentés par la photographie. Et c'est ce qui engage.
Par exemple, les souterrains de Paris qui vont
par
photographier.
Exemple, les
Qu'est-ce
catacombes.
Qu'est-ce qu'il les fait? C'est Félix ou c'est...
C'est Félix, là, pour
c'est
le
c'est
coup.
Félix. Oui, oui.
C'est Félix.
C'est Félix, les catacombes,
les égouts.
Et puis, de la même manière qu'il va aller photographier ce qui se passe sous terre, il s'intéresse à photographier ce qui se passe en l'air.
Parce que donc, là, il y a une grande histoire. Le Nadar, comment on dit, aéro...
Aéro, enfin, en tout cas, l'aventure de la photographie aérostatique.
Voilà.
C'est-à-dire la photographie en ballon. Statique.
Quelle histoire.
Oui, quelle histoire qui complètement aussi là dans Quand j'étais photographe romancée par Félix, réécrite pour faire de sa photographie aérostatique la première photographie faite en ballon, mais il s'avère que là effectivement l'entreprise était compliquée puisque les gaz qui était émis par le système de chauffage du ballon empêchait qu'on puisse révéler convenablement
l'image. Il n'en venait pas qu'il redescende et il n'y a rien sur...
Il n'y a rien. Donc il fait, une fois de plus, il fait de cette anecdote finalement une grande aventure et il se place comme dans tout le temps, dans Quand j'étais photographe, un héros. C'est l'héroïsme mais des
sauve,
premiers
il
temps.
Il sauve Paris, il invente...
Il sauve Paris pendant la...
Comment
En inventant un système de courrier aéropostal en fait
avec des pigeons
et
des microfilms en fait non
et puis il va y avoir toute une armée de ballons qui vont emmener les courriers et passer au-dessus
et c'est vrai qu'il est à l'origine de cela.
C'est vrai qu'il a dirigé en fait Sylvie Conan
avec un acolyte dont le nom m'échappe pour le moment. Ils étaient deux et au moment du siège de Paris et grâce à un de ces ballons qui en pouvait permettait de correspondre avec l'extérieur, ils ont pu faire sortir Gambetta de Paris et lui faire rejoindre le gouvernement provisoire à Tours.
Et puis après il y aura l'expérience du géant. C'est quoi cette expérience du
ça,
géant
c'est un peu
C'est avant.
Je pense que, en fait, donc Nadar adorait pour faire partie de la marche de son siècle et qu'il avait ouvert son atelier en 1854. Il avait déménagé dans un atelier splendide, boulevard des Capucines, en 1860. Il commençait à s'ennuyer avec son nouveau jouet parce que c'est un homme surexcité. Enfin, un de ses contemporains dit qu'il vit dans une perpétuelle crise attaque de nerfs. Donc, en plus, il a un physique spectaculaire. Il mesure 2 mètres de haut, il a les cheveux roux dressés sur la tête. Enfin, c'est un personnage inouï. Il est habillé en rouge pour tout arranger.
Et le magasin est peint en rouge.
Et le magasin,
tout est rouge.
C'est
l'enfer.
La signature est rouge.
Le diable rouge, sa signature est rouge. Et donc en 63, il s'ennuie un peu et rencontre un personnage qui s'appelle Ponton d'Amécourt et qui... à l'idée que la navigation aérienne avec des ballons, c'est-à-dire des gaz plus légers que l'air, n'est pas l'avenir et que l'avenir, c'est les hélices, c'est-à-dire l'hélicoptère, les moteurs à hélices.
Les photos d'hélicoptères qu'il y a dans l'exposition, c'est fantastique.
Elles sont très belles.
Fantastique. On dirait des Duchamp. On dirait des dessins de Marcel Duchamp.
Exactement. Ouais. Et voilà. Et donc, Félix Nadar se passionne pour la cause du plus lourd que l'air. Et il a l'idée extrêmement paradoxale pour faire la publicité de Ponton d'Amécourt, de ses petits hélicoptères et du plus lourd que l'air, de construire le ballon le plus grand qui ait jamais existé, qui s'appelle le géant, qui mesure 40 mètres de haut, et de le faire voler pour faire la publicité pour le plus lourd que l'air.
D'aller s'écraser régulièrement.
Voilà, et là, il a dépensé tout l'argent qu'il était en train de gagner avec son nouvel atelier, a été englouti dans cette entreprise. Il a fait faillite à plusieurs reprises, il a dû vendre son mobilier. Il a été sauvé par des amis banquiers, les Pereire, plusieurs fois. Et il a eu un accident spectaculaire en octobre 1863. Mais tout ça, ça fait partie de sa légende.
Il nourrit les légendes, oui.
Voilà.
Oui, mais il aime l'aventure. Oui.
Il aime l'aventure.
Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'à 77 ans, il ne va pas essayer de faire de la photographie sous-marine?
En 1900, oui. Non, même à 80 ans.
À 80 ans,
quand, ah ouais. Quand il est installé à Marseille.
Il se fait mettre dans un cube. Comment il fait?
Non,
j'exagère.
Un petit peu.
C'est ma version Tintin.
Avec lui, l'exagération est en dessous de la réalité.
Vous êtes contaminé.
C'est-à-dire qu'il profite de travaux d'agrandissement du port de Marseille. On creuse les bassins du port pour avoir des tonnages plus importants dans des caissons étanches. Et il s'intéresse à faire un reportage pour un journal local sur ces ouvriers qui sont sous la mer.
Ah, je pensais que c'était les requins, les poissons.
Non. Ça, d'autres l'ont fait un peu avant lui. Il n'est pas pionnier, mais quand même... C'est quand même pas mal à 80 ans de faire un reportage sous la mer.
Ouais. Dites-moi, donc après, il y a d'autres aspects qui sont communs à l'ensemble des nadars. Par exemple, le goût du voyage, ça c'est plutôt Paul, je crois.
Oui.
Hein? Et puis le goût des animaux. Ils sont membres de la société protectrice des animaux.
Oui, c'est surtout, c'est Félix surtout qui tous les trois, oui. Oui.
Il photographie beaucoup les animaux. Je crois qu'il y a même des reportages pour protéger les chevaux de trait.
Il y a un studio en plein air pour photographier des équidés, effectivement.
Alors, il y a plusieurs choses. Adrien a fait, dans les années 1850, début des années 60, des photographies d'animaux de concours, puisqu'il y avait des concours agricoles sur les plus belles vaches d'élevage, après des concours de chevaux. Donc, il a fait de magnifiques portraits d'animaux avec leurs éleveurs, il y a des photographes qui continuent à faire ça, comme Yann Arthus Bertrand, par exemple. Et puis, ensuite, on les voit avec leurs animaux familiers et tous. On a beaucoup de photos de Paul Nadar avec son chat, Félix Nadar avec son chien. Ouais,
une des grandes luttes familiales, c'est que l'un n'aimait pas les chats et l'autre si.
Oui, c'est vrai, c'est exact. Paul aimait les chats et Félix préférait les chiens. Quant à Adrien, je n'ai pas de source sûre.
C'est important qu'on parle dans cette émission de choses très importantes.
Mais c'est vrai que Félix, au début du XXe siècle, a participé dans l'assiette au beurre à un livre qui dénonçait les mauvais traitements contre les chevaux de trait qui s'appelle Misère du cheval. Ils étaient des pionniers de la défense des animaux, ce qui les rend très sympathiques.
Même encore plus aujourd'hui, on commence à avoir heureusement cette conscience.
Exactement.
Voilà. Est-ce que ça vous fâche? J'ai envie de quelque chose, mais je voudrais pas. C'est que nous revenions, je sais qu'on doit parler plus de Paul, un petit peu plus d'Adrien, mais que nous revenions quelques secondes quand même sur Baudelaire et Félix, parce que ça semble être une amitié déterminante. Alors, ce que je vous propose, on écoute quelques secondes le texte de Baudelaire et ensuite on parle de cette relation extraordinaire.
Le propos, tout d'un coup, tomba à l'aspect encore lointain d'une figure bizarre, fantomatique, qui se découpait sous la voûte des verdures, semblant venir droit vers notre banc. À mesure que l'apparition se rapprochait, comme aimantée sur nous, plus distinctement, nous percevions un jeune homme de bonne taille moyenne, élégant, tout de noir vêtu, sauf la cravate sang de bœuf, en habit démesurément évasé du torse en un cornet, d'où émergeait comme bouquet la tête. Et à basques infinitésimales en sifflet. L'étroit pantalon sanglé par le sous-pied sur la botte irréprochablement vernie. Col de chemise largement rabattu, manchette non moins ample en linge très blanc de fine toile, protestait par la proscription du moindre emploi contre le supplice d'encarcanement, dont l'étrange goût s'obstine à ankyloser nos générations présentes. À la main gantée de rose pâle, je dis de rose, il portait son chapeau, superflu de par la surabondance d'une chevelure bouclée et très noire qui retombait sur les épaules. Tiens, Baudelaire. Le banc a tressailli. Nous allions donc enfin le connaître, celui-là tant désiré. L'aspiré tirait bien à nous maintenant sur l'appel entendu, procédant dans sa marche par saccades des articulations, semblant choisir pour chacun de ses pas la place, comme s'il marchait entre des œufs, ou qu'il craignit par ce sable innocent de compromettre le luisant de sa chaussure. Le noir du costume aidant, le geste retenu, méticuleux, concassé, rappelait les silhouettes successives du télégraphe optique qui se démantibulait alors sur les tours de Saint-Sulpice, ou mieux, la gymnastique anguleuse de l'araignée partant humide au bout de son fil. Vingt ans plus tard, on s'arrêtait devant la seconde persona de Baudelaire. Soit que par Paris ou Bruxelles, il trotta menu comme jadis, soit qu'il se tint braqué, méditatif, au coin d'un carrefour. En voyant cette tête toujours singulière, s'évasant du collet de la houppelande invariablement retroussée, nez vigoureusement lobé entre ces deux yeux qu'on n'oubliait plus, deux gouttes de café sous des sourcils retroussés, lèvres serrées et amères, mauvaises, cheveux argentés avant l'âge, tantôt trop courts, tantôt trop longs, visage glabre, cléricalement rasé jusqu'aux scrupules. Le passant, saisi, comme inquiet, songeait « Celui-là n'est pas tout le monde. » Assurément, l'étrange en toute chose demeure la dominante caractéristique de Baudelaire. Et avec tant d'autres obstinés encore à scruter ce cerveau, fouiller cette âme complexe et contradictoire, nous restons à déchiffrer l'indéchiffrable. Félix Nadar, 1911.
Vous écoutez France Culture, vous êtes sur l'émission L'art et la matière et nous venons d'entendre ce texte assez extraordinaire, Baudelaire intime, écrit par Félix Tournachon alias Nadar avec cette langue superbe et ce goût du portraitiste comme ça qui va directement sur les traits saillants du personnage. Nous sommes en train de parler de l'exposition qui a lieu à la Bibliothèque nationale de France, Les Nadar, qui met en évidence toute cette dynastie, ces trois grands personnages Nadar. Il y aurait eu l'épouse de Félix dont on aurait pu dire un mot parce qu'elle a été très importante, j'ai l'impression. Et nous continuons dans cette histoire. L'histoire de Nadar Baudelaire, c'est une grande tendresse, c'est une intimité très forte. Dites-moi, Paul-Louis.
C'est une amitié très forte. Ils se rencontrent dans les années 1840. Alors, il y a vraiment... Nadar a été assez maltraité par Baudelaire, finalement. Photographiquement parlant, il y a une sorte de défiance... On l'a déjà un peu évoqué, mais de Baudelaire par rapport à la photographie. Et il y a souvent des pics, notamment dans les poèmes de Baudelaire, ou dans des lettres sur la photographie et sur le caractère assez prosaïque de l'image photographique. Mais finalement, le livre de Nadar qui s'appelle Baudelaire intime.
Incroyable.
Qui est publié de manière posthume, puisqu'il est publié en 1911, soit juste après la mort de Nadar en 1910, est assez intéressant parce que justement, c'est peut-être le dernier texte qui évoque pour lui ce personnage qui a été effectivement très important, qui est un peu son frère de littérature, de poésie, et qui représente pour lui tout ce qui l'a formé, c'est-à-dire ce romantisme des années 1820-1830, et qui est le... le romantisme dans lequel il est né finalement. Et donc il y a une communauté, si ce n'est de médium, en tout cas de poésie et d'attention à des choses. Alors évidemment, il n'avait pas du tout le même langage, mais il y a eu toujours ces affrontements. Et puis Félix Nadar est le dernier, il fait partie juste des derniers fidèles, hein, de oui, ceux qui pourront encore visiter Baudelaire alors qu'il est malade.
Le titre n'est pas usurpé parce qu'il y a une intimité dans la description de la maîtresse de Baudelaire, Jeanne Duval. Il va dans des détails qui sont extraordinaires.
Il va dans des détails extraordinaires parce qu'il trompe sa maîtresse de Baudelaire, le trompe avec Nadar, d'après si on en croit Nadar.
Parce que ce qui décrit de Jeanne Duval semble être effectivement très intime, donc je le comprends mieux maintenant. Voilà. Quel personnage et quel sillage, parce que les enfants sont importants, ils ont ce talent aussi, surtout Adrien, c'est très frappant. L'autre, Paul, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est un explorateur, c'est quelqu'un qui va utiliser la photographie? Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une postérité Nadar?
Alors, je peux le dire, tout l'intérêt de l'exposition, c'est que au-delà de cette dynastie, c'est effectivement de pouvoir brosser des années 1850 à 1900, juste après la Seconde Guerre mondiale, aux années 40, toute l'histoire de la photographie. C'est-à-dire que là, on touche aux évolutions profondes de la photographie. On passe de la photographie donc artistique, comment on défend la photographie artistique dans les années 1850, puis après comment un studio s'adapte à une nouvelle clientèle dans les années 1860, 70, 80, et avec l'arrivée de Paul, donc le fils, qui va reprendre le studio petit à petit dans les années 80, on va voir son combat quotidien pour faire en sorte d'intégrer les nouvelles technologies de la photographie, dont la photographie instantanée et la mise à disposition pour un public nouveau, un public d'amateurs, de matériel photographique. Et ça sera toute l'aventure de Paul, qui va effectivement beaucoup voyager, en tout cas voyager très loin de chez lui pour pouvoir tester les nouveaux appareillages, les nouvelles pellicules. Et c'est sans doute au sein des Nadar, en France, que sont testés les premiers appareils américains comme le Kodak.
Merci Paul-Louis Roubert, merci Sylvie Obnas infiniment pour cette exposition qui nous fait vivre toute cette aventure d'une invention qui a une telle conséquence dans nos vies d'aujourd'hui. Merci.
Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu Sylvie Obnas, commissaire de l'exposition Les Nadar, une légende photographique à la Bibliothèque nationale de France, et Paul-Louis Roubert, co-auteur du catalogue et président de la SFP, Société française de photographie. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. Lecture des textes, Gabriel Dufay. Une émission préparée en collaboration avec Seam Boutata. Prise de son, Manuel Couturier. Réalisation, Franck Lilin. Merci Franck. À 15h30, une saison au théâtre de Joël Gaillot et dans quelques instants, Personnages en personne par Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.